Congar, donc, le père Ferret, le père Demand, qui raccordent toutes leurs préoccupations, l'œcuménisme pour Congar, l'action sociale pour Ferret, à un thomisme dans lequel, j'en parlerai, a fait éruption la critique historique. C'est l'optique bout de chemin. Je parlais de bout de chemin avec les communistes, bout de chemin avec la pensée moderne. C'est encore la ligne forte, par exemple, des penseurs les plus en pointe de la théologie parisienne, à savoir les jésuites du Centre Sèvres à Paris. Hein, dont la préoccupation est comment exprimer la théologie dans les concepts et avec les schémas de la philosophie moderne. En oubliant, évidemment, que cette philosophie moderne s'est construite contre la théologie catholique, ce qui, évidemment, rend les choses un petit peu difficiles. Et très exactement, d'ailleurs, le parallèle est parfait, comme la liturgie, qui s'est voulu, la réforme liturgique, une réforme d'inculturation, a oublié que, s'il y a eu, à certaines époques, une inculturation, par exemple, Saint-Cyrille et Méthode en Orient, enfin, etc., voire une certaine inculturation en Amérique latine, en Chine, enfin que sais-je, l'inculturation dans les années 50, dans les années 70, et aujourd'hui pour ce qui en reste, c'est une inculturation dans une culture, entre guillemets on peut dire, qui est radicalement antichrétienne. C'est là toute la difficulté. Donc il y avait ce sous-parti, je vais dire. Un autre, hein, et on va retrouver cette partition chez les vainqueurs de Vatican II, un autre qu'on va dire plus à droite. Ces dominicains, on pourrait les appeler, pour simplifier les choses et aller très grossièrement, pardonnez mon penchant qu'on me reproche souvent aux sociologies et aux politiques, mais encore une fois, vous avez le droit de m'emplâtrer, je veux dire moralement. Les autres, donc, on va les appeler plutôt de centre-droit, et ils vont se retrouver après le Concile, derrière cette revue Communio, l'autre dans la revue Concilium, si vous voulez, le centre-gauche. Et alors là, on se trouve donc des gens d'une école dite de Fourvière, la faculté de jésuites de Lyon, le père de Lubac, le père Fessard, le père de Moncheuil, qui d'ailleurs n'enseignait pas tous à Fourvière, qui habitait plus ou moins, mais qui, pour lesquels la référence majeure était déjà un homme de troisième voie des années 20, enfin après la condamnation de Saint-Pédis, à savoir le philosophe Blondel, qui avait écrit pour essayer de trouver quelque chose qui soit à mi-chemin entre l'école, ce qu'on appellera plus tard l'école romaine, hein, les intégristes, si vous voulez, et l'Oisy et les modernistes. Leur machine de guerre scientifique va être le retour au Père de l'Église. Le retour, toujours. En liturgie, ce sera pareil. Ce sera le retour aux origines, à la liturgie du IVe siècle, si tant est qu'on connaisse la liturgie du IVe siècle. Et sur les parenthèses, si on célébrait la liturgie du IVe siècle, on serait enfin assommé par sa magnificence et sa munificence. Voilà. Ces hommes-là, d'un côté, et de l'autre, ceux qui vont perdre la partie à Vatican II, et qui, à l'époque, dans les années 50, commencent à s'appeler l'école romaine, dans laquelle de nombreux théologiens français et belges, certainement, Hugon, Billot, Lépicier, surtout le fameux dominicain Garrigou Lagrange, mais aussi Gagnebet, le pourfondeur de Maritain et de la liberté religieuse, Paul Philippe, des hommes d'études, des hommes dits fouillous, et je suis d'accord avec lui, parce que ça marche toujours ensemble, de pouvoir doctrinal. C'est vrai. Et comme les autres, seront aussi des hommes de pouvoir doctrinal. Non éloignés de Gilson, se trouveront d'autres thomistes qui sont distincts de ceux-là, mais cependant assez proches d'eux, c'est-à-dire ceux qui sont derrière Maritain, si vous voulez, Journet. Qui est une sous-tendance de la droite, on va dire alors, et qui, les pères Labourdette, Nicolas, autres dominicains de la revue Thomiste, qui vont jouer un grand rôle dans ces années 50 pour tirer la sonnette d'alarme, en fait, poussée par le futur cardinal Journet, professeur à Fribourg. Et tous ces gens-là donc se retrouvent, école romaine, pour simplifier, avec ses diverses tendances, nouvelle théologie, également avec ses diverses tendances. Je développerai donc, rapidement, puisque le temps déjà passe, trois points, comme dans un sermon classique. 1950, c'est très intéressant, par le fait que de la foi sans dogme des modernistes, on est passé à quelque chose de plus astucieux, plus fin, à l'expression non dogmatique de la foi, c'est-à-dire la mise entre parenthèses du dogme. Le résumé de la pensée visée par Pie XII se trouve dans un projet qui va devenir théologiquement très porteur, un projet ecclésiologique. Le XXe siècle, le XXIe siècle pour l'instant n'est rien du tout. Mais le XXe siècle n'a parlé que de l'Église. L'Église a parlé d'elle-même, aussi bien avec Pie XII qu'après avec Vatican II. Une autoréflexion de l'Église sur elle-même par le biais du projet œcuménique. C'était l'idée de Congar et c'était l'idée de tous les gens qui étaient autour de lui. Et avec un ouvrage très important dont je vais vous parler, « Vraie et fausse réforme dans l'Église ». La vraie, c'était la sienne, la fausse, je vous dis. Premier point. Deuxième point, 1950, c'est la nouvelle théologie. Très concrètement, l'encyclique de Pie XII visait des tas de choses. C'est une liste d'erreurs, très beau texte, très simple, très facile à comprendre, qui, lui, n'a pas été suivi de condamnation, en tout cas pas aussi dure que celle de Saint Pius, qui n'a pas non plus été très bon, il ne faut pas exagérer, et qui visait donc ce qu'il avait lui-même appelé, en reprenant le terme qu'il avait pris sur Futur Cardinal Parente, la nouvelle théologie, et qui va donc balayer l'école romaine, et je vais vous expliquer de quelle manière, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, 1950. 1950 aussi, du point de vue liturgique, puis c'est une partie de ma conférence, c'est à ce moment-là, je simplifie bien sûr, c'est dans ces années-là, il faudrait dire, que s'est fait le basculement, ça vous connaissez bien en Belgique, du mouvement liturgique. C'est dans cette période, durant cette période, que s'est produit un événement vraiment unique dans l'histoire de l'Église et sans doute dans l'histoire culturelle de l'humanité, une réforme. C'est le nom qu'elle a pris, en réalité une révolution de la liturgie latine, qui a été la part la plus visible pour tout le monde, la plus symbolique, la plus pastorale, dans tous les sens du terme, du bouleversement doctrinal. En vertu du principe que tout le monde connaît, lex orandi, lex credendi, la loi de la prière exprime la loi de la foi, et inversement, et réciproquement. Et donc, dans ces années où je me situe, on est passé, si vous voulez, une partie du mouvement liturgique, je vous explique comment, à écarter l'autre. Premier point. 1950, donc, non pas la foi sans dogme des modernistes, mais l'expression non dogmatique de la foi, c'est pas tout à fait pareil, des semi-modernistes, ceux d'aujourd'hui. Je vais vous parler de l'invention géniale du pastoral, du magistère pastoral, qui permet de contredire à demi, pas tout à fait quand même, c'est plus compliqué que ça bien sûr, le magistère antérieur, en se plaçant à un niveau inférieur à celui de l'infaillibilité. Alors là, on est au cœur d'un sujet très actuel, puisque aujourd'hui, je le dirai en terminant, à Rome, en Italie particulièrement, plus qu'ailleurs, et c'est très bon, c'est très bien, se relève en quelque manière l'école romaine sur ce point-là particulier, en discutant, et la discussion est publique, elle est ouverte, c'est un des grands bienfaits du pontificat actuel de Benoît XVI que d'avoir ouvert le débat. On peut parler de tout tranquillement, enfin presque tranquillement, et notamment de cela, à savoir... pourquoi ce concile n'a-t-il pas été, comme tous les autres conciles qui ont précédé, un concile dogmatique et finalement un concile infaillible. Et ce faisant, il a pu faire passer dans certains textes de l'unité des choses qui, au moins, sur les apparences, semblent en contradiction, en tout cas en gauchissement, par rapport au magistère antérieur. Donc, cette idée du magistère pastoral, je l'attribue et personne ne m'a jamais contredit depuis que j'ai affirmé cette chose-là, au père Congar. C'est-à-dire que le père Congar, donc, était d'abord et avant tout un œcuméniste, enfin, un ecclésiologue, disons. Mais œcuméniste en ce sens que sa grande idée était qu'en dehors de l'Église catholique, il peut se trouver quelque chose d'ecclésial. C'est finalement ça, l'œcuménisme. On ne sait pas comment, mais c'est comme ça. Et en 37, donc dans les années dont je parlais de l'émergence de ce tiers parti, d'Enseignant Sauchoir, et il a publié un livre fondamental, Chrétiens désunis, principes de l'œcuménisme catholique, qu'il n'a ensuite jamais republié parce qu'il contenait des propositions extrêmement embarrassante et que c'est qui aurait pu valoir une condamnation en règle. En 50, il avait 46 ans, il publie « Vraies et fausses réformes dans l'Église ». La question de fond, à l'époque, était substantiellement la même que celle qui était agitée par le catholicisme libéral depuis un siècle et demi, à savoir réconcilier l'Église et certains mondes modernes. Le père Congar, comme les hommes du XIXe siècle, Monsieur Barret par exemple, en France, estimait que cela ne pouvait se faire en introduisant tel quel les idées du monde moderne dans l'Église, mais ça supposait, je cite, un travail en profondeur, en faisant en sorte de travailler donc des principes fondamentaux permanents du catholicisme pour leur faire acquérir un développement nouveau en assimilant, je cite le père Congar, après les avoir décantés aux besoins purifiés, certains apports spécifiques de la modernité. Cette assimilation fondamentale devait se concrétiser par des ouvertures. Il disait très concrètement et très précisément, déjà en 50, l'œcuménisme, la réforme liturgique, pour lesquelles il disait, je cite, s'imposerait de véritables créations liturgiques. Je vous dis, c'est 50, mais c'est pas si vieux que ça. Hein, on est 12 ans avant l'ouverture du Vatican. Depuis le 19e siècle, la revendication primordiale du catholicisme libéral se doublait d'une remise en question de l'autorité du magistère. Pour faire bref, les libéraux doutaient de l'infaillibilité de Pontacoura, du syllabus et de tout le magistère antimoderne de Pie IX, de Léon XIII, etc. Mais la spécificité des années 50, celle de Congar notamment, sera le dépassement. Un dépassement qu'il résume dans sa vraie et fausse réforme par cette formule « primauté du pastoral » qu'on va trouver dans la fameuse formule « magistère pastoral ». Il n'y avait pas rien de très original, si on veut, en cela, puisqu'en somme, il s'agissait d'une nouvelle forme de relativisation du dogme, mais une relativisation positive, au sens technique du terme, c'est-à-dire qui permettait d'élaborer une nouvelle norme dans l'expression de la foi en passant par-dessus la norme ancienne, estimée trop scolastique, trop rigide, pour retrouver une norme ancienne telle qu'elle s'exprimait, par exemple, chez Saint Bernard, chez les avants scolastiques ou chez les pères de l'Église,